Une fuite en avant, mais sur place, dans le mas de Denise, voilà que Marc explose littéralement d'idées, 13 à la douzaine, qui déstabilisent l'équipe, chahutée dans une aventure évidemment non prévue. Parallèlement, Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, une sorte de guide de conseils pratiques qu'il pense être la solution à ses problèmes. On peut voir dans le livre des solutions de Michel Gondry une comédie où les comédiens et comédiennes se lâchent. Pour toutes et tous, il faut bien dire, ce sont des prouesses de jeu. Mais c'est aussi une entrée en diagonale dans les coulisses de la production de films d'auteur, avec ses problèmes de budget, ses rebondissements farfelus et ses surprises. Et puis les Cévennes sont belles. Le livre des solutions de Michel Gondry est en salle le 13 septembre.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour.
Samedi prochain, faire justice, moralisme progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes. De Elsa Deck Marceau, publié à La Fabrique. C'est une rencontre avec l'autrice. Nous parlerons évidemment de plusieurs films, mais notamment de L'Arbre au papillon d'or, un film de Fan Tianan qui sort le 20 septembre. Très très bonne semaine, et bien sûr, comme d'habitude, tenez bon.
Et maintenant un message de Christiane dans les Cévennes. À toi, Christiane.
Eh bien, simplement pour dire à tout le monde que malheureusement, Ronald Craig, qui est un ami très proche de Radio Libertaire et qui était souvent dans les chroniques rebelles, malheureusement est décédé hier. Et donc, nous avons décidé de consacrer la deuxième partie de l'émission de la semaine prochaine eh bien, à lui et puis également au numéro réfraction numéro 50, dont nous parlerons même certainement après, mais en tout cas, de faire un hommage à Ronald, avec Jean-Jacques Gandini. Très très bonne semaine et bien sûr, malgré la mauvaise nouvelle, un peu triste, eh bien, tenez bon.
Moi, j'ai aussi un petit message, c'est Publico en fait. Grande braderie du livre et du disque à Publico, aujourd'hui jusqu'à 19h et demain de 11h à 19h. À 16h, il y aura Paco Munoz, pardon, un flamenco de Amédia à Paris. Et demain à 14h, les pétroleuses, musiciennes et chanteuses des chants de la commune. Publico, c'est toujours 145 rue Amelot, à Paris 11e. Salut!
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Nolé, oblé, whisky, cartoula, mauditoris, émeré.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunias sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte
120 bitcoins.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via e Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues procribus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alisque rebus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Non, petite erreur, j'ai dit que c'était 20 bitcoins pour la carte d'auditeur, c'est 20 euros, parce qu'avec 20 bitcoins, vous rachetez la radio, vous achetez tout et vous payez ma gueule.
Séduit par une voiture 1900 qu'il venait d'acheter, Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Luc, épaté, cassa ce tape-cul. Bah, il faut dire qu'il avait fait un festin bien arrosé. Alors, on l'a conduit à l'hôpital, il était blessé. Et même là, et il a ergoté cet ogre alité. Et il a ergoté cet ogre alité.
Et oui, c'est douloureux un palindrome de Gérard Durand, et même le cri à la fin peut être renversé et transformé en palindrome. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Non, le dérèglement climatique n'a pas lieu. Non, l'être humain n'a jamais existé. Vous êtes une marmotte en train de dormir. Vous allez vous réveiller et il va faire beau. Allez, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits « je me souviens » pour commencer. Je me souviens que mon cousin et moi, on était vachement déçus quand l'un des deux récits complets de Pif Gadget au milieu, ben c'était 14 pages de Corto Maltese. Mais Corto Maltese, on comprenait pas. Je me souviens vaguement d'une comptine que chantaient mes cousines en sautant à la corde. On y faisait rimer « bombe atomique » qui revenait d'Amérique et aussi « gymnastique ». Il doit manquer une de ces rimes, peut-être transatlantique ou même acide chlorhydrique. Je me souviens de jouer et comporte des risques, appelé le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Je me souviens de « tout vient à point, à qui sait être tendre » et autres proverbes tagués sur les murs de Paris par la dactylo. Je me souviens qu'au détour d'une conversation, Christelle m'avait avoué qu'à 45 ans, elle n'avait fait que 3 fois l'amour dans sa vie. 2 fois par erreur, 1 fois par amour. Le total était médiocre, mais quand j'y repense, la proportion était pas mal. Je me souviens de Jacques Blavette, un nom lu au hasard, sur le long monument aux morts qui fait tout un mur du cimetière du Père Lachaise, guerre de 14. Je me souviens qu'Yamina nous avait montré la grosse clé pendue à droite de sa porte en entrant, la clé de la maison en Palestine qu'elle avait dû quitter avec ses frères. Elle nous avait expliqué « Tu vois, nous aussi, on a notre espèce de mezouza. » Je me souviens que c'est en lisant « Qui a dit que je battais Pandro ?» que j'ai transformé immédiatement dans ma tête en « Qui a dit que je bandais pas trop ?» que j'ai enfin compris un jour ce que c'était que l'album de la comtesse dans le canard enchaîné. Je me souviens que petit dôme Steph Dudu avait volontairement laissé les empreintes de leurs pieds dans une nuit, de leurs pieds trempés dans la peinture blanche en un long parcours de la porte de la chapelle jusqu'au parc Montsouris. Je me souviens qu'ayant lu « Meurtre à l'Élysée » et 2 autres polars
au demeurant médiocre, que l'on disait écrit par quelques conseillers de François Mitterrand, dévoilant à nom couvert quelques arcanes du pouvoir, j'avais eu l'envie de soumettre à des éditeurs Meurtre dans une radio libre, fort de mon expérience dans un milieu à l'époque agité. Et puis, très vite, je n'avais pas dépassé le chapitre 1. Je me souviens qu'en septembre, je surveillais la liste de mes invités. Je me doutais bien que 5 ou 6 de mes élèves, découvrant que leur prof parlait dans le poste, allaient tendre l'oreille sur 89.4 et j'espérais quand même, début septembre, ne pas tenir à l'antenne de propos trop obscènes ou pornographiques. Je me souviens de « D'où qui pue donc-t-on ?» le premier mot de Zazie dans le métro et d'avoir en classe disserté pendant 2 heures sur le mot « homosexuel » inventé lui aussi par Queneau. Je me souviens des tartines largement beurrées, saupoudrées de chocolat poulain, le 4 heures que ma grand-mère préparait pour mes cousins et moi, ben, à 16 heures justement.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tourner. De marches funèbres et de tombeaux en tombe, on oubliera l'humanité. Mozart se lève, me crie par Jupiter, y'a que chez toi que je me sens moins poudré. Le vin pétille dans les yeux de Schubert qui se fredonne l'inachevé. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite symphonie. Et sur les notes, on oubliera les femmes qui n'en finissent pas de tourner. De valses en Vienne et d'éventails en drame, on oubliera même leur beauté. Beethoven sourit en pensant à Élise qui ne répondait pas au courrier. Et Rossini m'apprend que c'est Miramis, c'était la puta du quartier. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit Don Giovanni. Et sur les notes, on oubliera la gloire qui n'en finit pas de tourner. À la roulette des succès illusoires, la gloire micro-sionisée. Rossini gueule, mon barbier de Séville, par Toscanini dirigé. Ma c'est une bombe, ma c'est une torpille, ma c'est une tube, c'est tout un succès. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer un petit quintet en mi. Et sur les notes, on oubliera la mort qui n'en finit pas de tourner. De l'ouverture jusqu'au dernier point d'orgue, on oubliera l'éternité. Demain il y aura Mahler, Brahms et Schumann pour faire plus long que la table. Il y a trop longtemps que la noblesse mélomane se les était colonisée. Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour du dernier verre dans ma chambre, on va se jouer la petite musique de nuit.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Les deux dernières semaines, on s'est payé une grosse tranche d'Henri Tachant pour lui rendre notre petit hommage, mon homme. Et là, un dernier titre, effectivement, avec Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini, que j'avais omis de passer la dernière fois. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Mais que constatais-je ? Evelyne a invité Fabien, ça va faire baisser de moitié notre auditoire. Non pas que Fabien fasse fuir les auditeurs, mais parce qu'il représente à lui tout seul la moitié de notre auditoire.
C'est pas vrai.
Il y a plus de personnes qui écoutent.
Non, on a beaucoup d'auditeurs, mais tu les connais pas tous, voilà tout. Oui. Ils sont discrets, c'est tout, voilà. Et puis Fabien, je le connais depuis des années.
Il y a plus de personnes.
Il a mis du temps à venir. Ça fait des années que je le connais. Il a mis du temps à venir. Il habite pas, on peut le dire, tu habites du côté de Lille.
Voilà.
Eh bien, aujourd'hui, c'est pas qu'on est un petit comité. Anne Delalleux va venir nous rejoindre pour sa rubrique de théâtre. Et Fabien, je te présente. Ouais. Toi, il faut quand même le dire, tu fais de la radio.
Alors, je fais des podcasts avec des amis, oui. Des podcasts, bon, je suis pas venu pour ça, pour en parler, mais c'est vrai que je peux le préciser, j'aime beaucoup les livres dont vous êtes l'héros. Alors, ceux des années 80 connaissent, forcément, c'est des livres-jeux, en fait. Donc, on lit une histoire, il y a des paragraphes, en fait, et à la fin, dans chaque paragraphe, ils proposent des choix. Par exemple, est-ce que vous voulez aller à la gauche, aller tel paragraphe, tel numéro de paragraphe, vous voulez aller à droite, tel numéro. Vous voyez une personne au loin, qu'est-ce que vous faites? Donc, suivant l'action, on va à tel paragraphe. Donc, c'est des livres interactifs. Donc, et à l'époque, dans les années 80, ça marchait pas mal. Et bon, maintenant, c'est avec les jeux vidéo, la concurrence, tout ça, les gens qui lisent moins, donc c'est un peu passé de mode. Mais bon, il y a toujours du public pour ça. Surtout les gens de ma génération, quoi. Mais donc, je fais des podcasts avec deux amis, Xavier et Fred, que je salue. Et donc, si ça intéresse les personnes.
Alors, il suffit d'aller podcast.
Alors, ça s'appelle le podcast dont vous êtes le héros.
Podcast dont vous êtes le héros. Voilà. Et l'héroïne, alors.
Enfin, oui, vous, voilà.
Il n'y a pas d'héroïne.
Si, il y en a, mais on a fait une généralité. Donc, il faut aller sur le site www.tauceti.org. Alors, T-A-U, le tiré de la toussis, C-E-T-I. .org. Voilà. Et donc, vous verrez, il y a toute une liste de podcasts, il y a plus d'une centaine d'émissions.
Ah oui, oui. Voilà. Je reviens, je crois que ça a sonné, je crois, non? Ça a allumé.
Oui.
Les monstres de l'Aleph, les messagers du temps, l'œil noir et l'auberge du sanglier noir, oui, c'est bien voilà. Ça les derniers en date?
Tout à fait, oui, voilà. Il y a aussi des interviews, il y a plein de choses, et puis c'est des émissions d'1h30, 1h30 à 2h, il y a de la musique, il y a des petits bruitages, et c'est sympathique, et c'est vraiment... voilà, on fait ça, on fait pas ça pour la gloire, mais c'est vrai que c'est sympa, on s'amuse bien pour les enregistrements, puis même l'écoute aussi, c'est sympa, et... Voilà.
T'as fini par en écrire toi-même ?
Alors non, j'en écris pas moi-même. C'est vrai, bonjour.
Salut.
Non, j'en écris pas moi-même, j'aimerais bien, mais j'avoue, j'ai pas trop le temps, mais peut-être plus tard, pourquoi pas essayer. Mais plus dans l'horreur, parce que j'aime beaucoup l'horreur, notamment le gore aussi. Donc, mais c'est vrai que j'aimerais bien en écrire plus tard.
Et pourquoi tu participerais pas à une émission de Stéphane Allégret ? Je lance un appel. Enfin, bon, je sais pas. Moi, je l'aurais dit une fois.
Oui, voilà. Après, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est... En tout cas, c'est... Il y a toujours quand même un public. En plus, ça s'est un peu développé parce qu'il y a aussi... maintenant, ils font aussi des bandes dessinées dont vous êtes le héros. C'est nouveau. Avant, ça n'existait pas et tout. Ils ont même fait des DVD interactifs. Justement, vous pouvez choisir aussi l'aventure. Voilà. Ça a quand même un peu évolué. Mais... Après, c'est beaucoup pour les nostalgiques, mais il y a aussi les nostalgiques qui sont devenus pères de famille et qui font découvrir à leurs enfants ce genre de romans. Et puis, ça peut permettre à des gens qui n'aiment pas lire, forcément, d'avoir... comme il y a un côté interactif, un côté jeu, ludique, ça peut donner envie aux gens qui n'aiment pas lire.
Ouais, d'accord. Voilà. Et une fois, tu m'avais fait écouter un podcast où tu interviewais... Une traductrice
de livres dont vous êtes le roi. Elle s'appelle Monade Pracontal C'est, en fait, elle a travaillé beaucoup chez Gallimard, donc je l'ai interviewée, donc je lui ai posé plein de questions, justement.
Mais c'était
pour...
très bien, hein.
Et c'est vrai que c'était intéressant, c'était parce intéressant. Que le métier de traducteur, souvent, il est mis de côté. Hein. Les gens, voilà, les gens s'intéressent plus à l'auteur, mais pas au traducteur, pas aux traductrices. Et c'est vrai que c'est important, parce que si on aime un roman, c'est grâce aussi à la personne qui traduit.
Tu devrais venir à la radio créer ta petite émission mensuelle. Tu devrais. Hein, tu crois pas?
Bah... Attends,
si, si, non, parce que je t'ai écouté à la radio, tu es formidable. Hein,
pour bah, c'est gentil, merci.
Bon, alors, Anne, on nous attendions, est arrivée.
Coucou, bonjour à tous.
Bonjour Anne.
Bonjour
Anne.
Bonjour
Isabelle, et notre invité, notre sacré invité.
Ah oui.
Sarah Bernard.
La divine Sarah Bernard.
Sarah Bernard.
Oui, je suis réincarnée.
Voilà. Réincarnée en Isabelle Sprung. Voilà. On est tous les trois avoir vu la pièce hier soir.
Oui, merci voilà. D'être venu.
Voilà. Et c'était bondé, hein, quand même.
C'était
hein.
Bondé et on a même chanté la Marseillaise puisqu'il y avait le rugby. Et ça, c'est autre chose.
Oui, parce que.
C'était prévu de toute façon.
Bah,
de
non,
toute
non. Façon. Il se trouve qu'il y a un café à côté du théâtre, ah de ben, chez Montparnasse. Oui. Et le trottoir était plein de monde. Ils hurlaient, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y avait la Marseillaise. À un moment donné, on a entendu la Marseillaise, mais ça rebondit jusque dans la salle de spectacle, alors que la salle de spectacle était fermée pendant que tu jouais.
Oui, j'ai tout entendu.
Voilà. Et après, c'est toi qui as entonné la Marseillaise.
Oui. Mais Sarah Bernard chantait souvent la Marseillaise.
Ah, ben voilà.
Oui.
C'est voilà. Un signe alors.
Non seulement c'est l'anecdote qui est racontée dans le spectacle et qui est véridique, elle a chanté la Marseillaise parce qu'elle était en disgrâce pour récupérer son public parisien. Parce qu'elle savait très très bien rebondir, elle a eu comme tous les artistes des hauts et des bas dans sa carrière, et elle savait très bien rebondir. Et donc cette fois-là, elle a su chanter la Marseillaise au bon moment, au bon endroit.
Alors on sait plus c'est Sarah ou c'est Isabelle, c'est les deux. Enfin, elles sont
Sarah
elles...
qui quoique qui chantait la Marseillaise.
Bernard. Oui, hier c'était Sarah Bernard et c'était Isabelle aussi, non? Enfin, c'est les deux quoi.
Ah ben moi j'ai choisi de chanter la Marseillaise parce que j'ai certains points communs avec Sarah Bernard, dont le fait d'être non pas patriote, parce que ça n'a pas le même sens, je pense, d'être patriote aujourd'hui et d'avoir été patriote à l'époque de Sarah Bernard, alors qu'il y avait des graves démêlés avec l'Allemagne, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, et donc ce qui a donné finalement la très très grave Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a tourné partout, sauf en Allemagne. Elle n'a jamais été
Mais il y avait déjà l'antisémitisme. Elle était d'origine juive.
Oui, et en plus, l'antisémitisme, il était français, la preuve.
Avec, il était français.
Puisqu'il y a eu l'affaire Dreyfus. Aussi, voilà. Donc, chanter la Marseillaise, c'est comme Gainsbourg aussi qui a chanté la Marseillaise.
Ouais.
C'est une façon de dire, voilà, j'aime la France.
Oui.
Sans forcément dire que je suis...
Sans être nationaliste, voilà, je veux dire, pur et dur.
Voilà, je dois tout à la France.
Oui,
voilà. Oui, c'est spécial, mais elle se sentait française quand même. Elle est française. Elle dit, je suis française.
Elle était française.
Oui, mais il y a des gens qui ont dit qu'elle n'était pas française.
Bah oui, c'est l'antisémitisme. Oui, c'est
voilà. Alors, Sarah Bernard, il y a le titre déjà de la pièce, Les doubles vies de Sarah Bernard. Et comme oui. Je me suis. Tu me poseras des questions. Hein,
oui, bien sûr.
Je me suis. Et toi aussi, Anne. On était trois à voir le spectacle.
Oui.
Donc, je me suis posé quand même la question.
Oui.
Les doubles vies. En regardant la pièce, j'avais l'impression que c'était toujours elle. Bon, double vie si on veut. Mais qu'est-ce que le. Tu entends par double vie ainsi que ta co...
Alors c'est un clin d'œil à son autobiographie qui s'appelle Ma double vie.
Ah voilà, bah, ça c'est
d'accord.
Intéressant. Alors elle a écrit sa biographie.
Oui,
elle avait quel âge quand elle a commencé à écrire sa biographie parce que
Les questions...
Je crois qu'elle avait une quarantaine.
Une quarantaine, cinquantaine, mais elle n'a pas pu la finir.
Non, elle n'a pas fini.
Parce qu'elle avait trop de travail.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, oui, elle avait une petite quarantaine, cinquantaine par là.
Parce qu'elle est morte âgée, quand même.
79 ans.
C'est âgé pour l'époque.
Pour l'époque.
Très.
Oui,
alors
très
que les
âgé.
Médecins avaient dit qu'elle allait mourir vers la vingtaine, parce qu'elle avait un seul poumon, un seul rein.
Ah oui, oui,
elle était de santé fragile, hein. Elle avait la tuberculose osseuse. Oui. Elle a fait tout ça malgré ses problèmes de santé.
Quand même. Alors voilà. Pourquoi tu l'as lu, sa biographie
ou, oui, oui.
Tu l'as lu
et... J'ai lu plein de choses.
Alors, tu n'es pas la seule auteure de la pièce. Il y a
Pascal Lelièvre.
Pascal Lelièvre.
Oui.
Très élégante. Hein,
oui, très chic.
Oui, très chic. On l'a vu hier.
Oui, elle est belle. Très chic aussi, très élégante.
Oui.
Merci, Anne.
Donc, vous êtes inspirée, vous avez lu la biographie, vous êtes inspirée de sa biographie.
Écoutez, c'est très simple. Quand j'étais au cours de théâtre chez Pascal Lievin, elle m'a fait travailler Sarah Bernhardt. Donc, déjà à l'époque.
Pascal Lievin est professeur de théâtre.
Oui, à l'époque, elle était professeur de théâtre et moi, j'étais élève de théâtre. Elle m'a fait travailler Sarah Bernhardt. Et déjà à l'époque, j'avais beaucoup lu et elle aussi. Donc, en fait, on a lu beaucoup de choses. Je ne vais pas parler en son nom, mais moi, j'ai lu tellement de choses. Que ce soit par d'autres biographes comme Anne Delbé ou le livre de Françoise Sagan, Le rire incassable, la pièce de théâtre Sarah, le cri de la langouste. Oui, il y en a des choses. Tout ce qui est sur Wikipédia, les vidéos de Arte, de Culture.
Est-ce que tu as vu les films muets, tu les as vus avec Sarah Bernhardt?
Oui, j'ai regardé La Voyante, les extraits, j'ai regardé les films de Guitry. Il y a un extrait qui est d'après Guitry sur le public.
Oui.
Le public vous traite de dilettante et de dispersée.
Tu l'as écouté, sa voix?
À qui?
À Sarah Bernhardt. Sarah. Mais
bien sûr, j'ai regardé sa gestuelle.
Bien sûr.
J'ai regardé ses duels quand elle était dans Hamlet. Oui, je suis allée à l'exposition. Je regardais comment elle jouait au tennis sans bouger.
Ouais. Donc c'est quand même un travail de longue haleine hein, pour s'approcher de Sarah Bernhardt. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein, c'est.
Ben, je crois que tous les travaux d'acteurs, c'est très très approfondi, sinon ça marche pas. Oui. C'est-à-dire que les gens disent j'y crois ou j'y crois pas.
Mm-hmm. Voilà. Moi, je dirais qu'elle est mondialement connue, pas seulement en France en fait. Elle est vraiment mondialement connue quand on parle de Sarah Bernhardt pour un petit peu.
Oui, mais elle est connue sans qu'on vraiment on la connaisse en fait. C'est comme beaucoup de gens célèbres. Hein. Tout le monde connaît Zola, tout le monde connaît Victor Hugo, tout le monde connaît Rimbaud. Tu donnes le livre de Rimbaud, il va pas le lire. Hein. Enfin, je veux dire, on connaît les gens par leur nom, on a entendu parler d'eux, mais les connaître, ça te touche vraiment, c'est autre chose quand même. Hein. Et là, justement, l'intérêt de ce spectacle, c'est que, comme vraiment tu connais le personnage, Elle est passionnante, cette femme-là.
Oui, c'est pas seulement elle qui est passionnante, je dirais aussi que c'est l'époque qui est passionnante. Mmh. Ce qui est passionnant aussi, c'est son parcours. C'est-à-dire que c'était une femme qui n'était rien, puisque sa mère, elle venait de Hollande.
Ça fait penser un peu au parcours de Coco Chanel, un peu.
Elle se connaissait, je crois.
Oui, c'est possible, oui. Coco Chanel aussi, c'était quelqu'un qui vient d'un milieu très pauvre, aussi, Coco Chanel. Mm. Et elle, je ne sais pas si c'était complètement pauvre, mais pas...
Couturière en Hollande, sa mère était couturière en Hollande.
Oui.
Elle n'était certainement pas très riche. Ça devait être une petite main exploitée. Ouais. Donc, si elle est partie pour faire cocotte... C'est que ça ne devait pas tellement marcher.
Oui, elle était pauvre. Et par contre, courtisane, tu peux. Ça rapporte, non? Ça ne rapporte pas.
Ça dépend. Eh bien, là, il y avait quand même le duc de Morny. Il y avait Alexandre Dumas. Je pense qu'elle s'était très bien entourée.
Oui, quand même. Mais elle a été élevée chez les religieuses aussi.
Oui.
Ah, bah ça n'empêche pas.
Elle était très, très croyante. Elle prétendait discuter avec la Vierge Marie.
Ah ouais?
Oui.
Ah, d'accord.
Elle voulait entrer au couvent et quand ils lui ont dit tu vas faire du théâtre, elle ne voulait pas. Mais il y avait un problème d'héritage. Si elle rentrait au couvent, il n'y avait plus d'héritage. Donc, on lui a dit tu vas faire comédienne. Elle, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle a dit non, j'aime pas le théâtre.
Ah ouais?
Oui, et puis finalement, elle a travaillé. En plus, elle n'était pas très, très, très au point au début. Il a fallu qu'elle travaille. Ah. Les premières critiques ont été assez dures.
Ah, d'accord. Oui, oui.
Mais comme elle était géniale, puisque sinon elle ne serait pas devenue... Elle était géniale, donc avec du travail, le génie est sorti.
Oui, mais disons qu'elle devait avoir une voix qu'aujourd'hui, difficilement
écoutable
aujourd'hui, parce qu'on n'est plus du tout dans ce registre-là, emphatique, j'imagine, hein, quand tu lis le Phèdre, j'imagine. Mais j'ai bien aimé, parce que dans ce spectacle, c'est un seul en scène.
Voilà. Oui.
Et moi, j'en ai vu des seuls en scène. Je peux te dire que j'aime bien, mais parfois, je m'ennuie un petit peu.
Quoi. Oui.
Et donc, ce qui est formidable, c'est que dans ce seul en scène, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est-à-dire que tu es extrêmement vivante. Il y a d'autres personnages que tu fais jouer. On a l'impression que tu es plusieurs hein, sur la scène.
Hein. Oui, c'est dynamique. Oui, hein? C'est très dynamique. Ah. Oui.
Tu es plusieurs sur la scène.
Oui, oui mais à l'intérieur aussi.
Oui, à l'intérieur aussi.
Moi, j'avais vu Isabelle, son spectacle, Zaza vide son sac. Là, pas, c'était la même chose. Hein. Isabelle, vous sautez, vous dansez, vous courez, vous marchez. Voilà, c'est pas du tout statique. Et là, dans le spectacle sur Sarah Bernhardt, c'est pareil. Hein. Vous êtes complètement... quand vous êtes allongé par terre, c'est trop marrant. Non. Moi, j'ai adoré. Hein, quand je trouvais ça très drôle. On s'y attend pas, en plus. Hein. C'est vraiment...
Non, mais c'est... Gavroche non plus, s'y attendait pas.
Et en plus, c'est plein de... Comme je disais dans l'article que j'ai écrit, là, il y a plein d'anecdotes très drôles.
Oui.
La ménagerie, là, son histoire de petit chien qu'elle appelle Hamlet.
Oui.
Il y en a un qui s'est bouffé par un crocodile, c'est ça?
Oui, ça fait rire tout le monde. Moi, je trouve ça très triste. Mais... tout le monde en rit.
Oui, mais je rigole, oui.
Moi, je suis à la place du crocodile, j'admire.
Elle voulait se faire greffer une queue de tigre, il paraît.
Ah oui, ça n'a jamais marché, ça, parce que quand même, tout le monde ne l'écoutait pas.
Oui, quand même, on lui a dit arrête.
Ouais, et puis, bon, on découvre des aspects. Elle était. Alors, je me pose la question, parce que c'était une femme, donc, hors du commun. On ne sait pas si elle était féministe ou pas, mais quand même.
Oui, elle était. Je pense que oui.
Oui. Et il paraît donc qu'elle a soutenu Louise Michel.
Ah, c'est pas il paraît.
Hein?
Oui, elles étaient amies.
Elles étaient amies.
Oui, et Louise Michel a écrit.
Oui, bien sûr.
C'est ce
que on se dit Sarah Bernhardt, une mondaine, patati patata, une bourgeoise, quand même amie avec Louise Michel. Hein?
Oui, bien sûr.
Et elle a soutenu aussi Émile Zola.
Oui, pour, l'affaire Dreyfus. Elle disait que ça l'empêchait de dormir, l'affaire Dreyfus.
Ah oui, oui. Elle n'avait pas la langue dans sa poche non plus, hein.
Ben non.
Ah non.
C'était quand même une grande directrice de théâtre.
Ah oui.
Elle avait plusieurs théâtres. Elle a résisté à la Comédie Française.
Elle a caté la porte au directeur de la Comédie française.
Ils lui ont fait un procès, elle leur devait de l'argent.
Ah oui.
Elle n'avait peur de rien, je crois.
Un truc qui m'épate, c'est qu'elle s'est fait amputer d'une jambe. Faut du courage quand même, hein, parce que je sais pas, à l'époque, ça devait pas être.
Je pas pense qu'elle n'en pouvait vraiment plus.
Hein? Elle devait souffrir.
Elle souffrait de la gangrène.
Ah oui, à ce moment-là.
Elle ne pouvait plus.
Ouais. Mais enfin, et elle a continué à jouer. Sans jambe. Enfin, avec une seule jambe, assise. Mmh. Elle a continué à jouer.
Oui. Formidable. On l'appelait la mère Lachaise. Nous sommes au Père Lachaise, là, pas loin.
Ouais.
Il y avait aussi, c'est les trois coups.
Elle a qu'un seul poumon, un seul rein, une seule jambe, elle est unique.
Oui.
C'est ça qu'il disait aussi Guitry.
Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait Jean Cocteau, elle avait Oscar Wilde.
Oui.
Elle avait.
Il a écrit Salomé. C'était Salomé qui
Oui, Salomé. Ouais, Salomé. Oui. Oscar Wilde, Victor Hugo. Ah, mais c'est très marrant la façon dont tu racontes comment elle a contacté Victor Hugo. Là, c'est très drôle. Elle appelait Totor, ou je ne sais pas comment, Totor.
Oui.
Enfin, bref.
Totor.
Oui, Totor. Ouais.
Le crâne de Totor. Ouais. Il devait offrir un crâne pour Hamlet.
Ouais, enfin, c'est... Il y a des anecdotes qui sont à mourir de rire, hein, franchement. Hein.
Bah, l'histoire de la dame qui vient d'avoir dans la loge. Ma mère est morte, mon père
ça,
est mort.
Ça, c'est Guitry qui l'a...
Il a raconté.
Rapporté, oui. Ouais. Je m'en suis servi pour.
Ouais. Et puis
pour
quand.
Pour écrire ça.
Bah, j'ai vu ça dans Wikipédia. Il paraît que elle à un moment donné recevait les gens dans son cercueil.
En fait, elle avait un sens de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing.
Ah. Le star system.
C'est-à-dire, elle travaillait son image. Mm. Et donc, elle s'était mise dans le cercueil par hasard, entre guillemets, parce que sa sœur agonisait, Regina. Et donc, elle avait mis le cercueil. Elle lui avait, il y avait un problème de logement à l'époque. Elle n'était pas très bien installée. Donc, elle a mis sa sœur dans son lit.
Ouais.
Et elle s'est mise dans le cercueil.
Ah, c'était le cercueil de sa sœur.
Elle ne fait pas si c'était le cercueil de sa sœur, mais elle fait venir un cercueil. Elle s'est mise là parce que c'était tout seulement là qu'il y avait de la place pour dormir.
Bon, d'accord.
Et la femme de chambre, ou je ne sais plus quel employé, a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, Sarah Bernard, elle dort dans son cercueil. Et donc, quand il y avait comme ça des commérages sur elle, au lieu de s'en plaindre, elle en rajoutait. Donc, elle a organisé des séances photos avec son cercueil.
Voilà. Et l'anecdote... Après, on va écouter la bande-annonce, hein, parce qu'il faut un petit peu de musique, etc. Il y a une anecdote où elle dit... Alors, je ne sais pas si c'est véridique. Elle dit... c'est plus difficile de mourir quand il n'y a pas de public.
Oui.
Ah, ça c'est incroyable. Hein.
C'est Mounet Sully qui a dit ça.
Ah. Mais ça lui va bien.
Oui.
Parce que c'est une cabotine, hein.
Oui. Elle aimait le public.
Mais non,
oui.
Mais c'est vrai, en plus, pour un comédien qui doit mourir sur scène, il doit y penser quelque part, un jour, je vais vraiment mourir. Et c'est sûr que mourir sur scène, ça doit être un peu excitant. Mais par contre, quand c'est pour de vrai, c'est autre chose, quoi. Non, mais je trouve que c'est vraiment une réplique de comédien, ça.
Oui, tout à fait. De toute façon, elle adorait mourir et elle avait beaucoup de succès avec ça.
Ah, elle adorait mourir sur
donc,
scène.
C'est pour ça qu'elle faisait du chantage en disant « j'arrête de mourir ».
Ah, voilà.
Si vous ne faites pas ce que je veux, j'arrête de mourir.
C'est-à-dire que tout le monde adorait la voir mourir sur scène.
Non, mais c'est surtout que si elle ne le faisait plus, il n'y avait plus de spectacle.
Ah, c'est ça.
Et donc, il y avait des problèmes de sous, il fallait ça. Rembourser.
Oui, oui. Ah, d'accord. Ça, c'est vraiment de l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, bon... Mourir sur scène, je ne sais pas. J'en ai pas trop entendu parler. Il y a peut-être plus de tragédiennes comme autrefois. Hein,
ce qui paraît, c'est qu'elle se révulsait les yeux, que personne ne savait faire ça comme ça.
Ah.
Et puis qu'elle mettait des épingles et qu'elle saignait vraiment.
Oh là là.
Pour la dame aux camélias.
Ah,
elle y allait fort.
Elle se piquait volontairement pour
saigner.
Oui,
elle y allait très très fort. Et même quand elle était enfant, quand sa tante s'en allait, parce qu'elle la laissait au couvent ou à je ne sais pas qui, la nourrice en Bretagne, elle était abandonnée par sa famille. Et comme elle ne voulait pas les laisser partir, elle s'est jetée par la fenêtre, elle se cassait la jambe.
Ah oui, quand même.
Elle faisait déjà beaucoup de... C'est pour ça qu'ils lui ont dit fais du théâtre, parce qu'elle faisait déjà beaucoup ça naturellement.
Ah, d'accord. Oui. Eh ouais. On va écouter la bande-annonce et puis peut-être. Est-ce que tu as l'idée d'une chanson qui irait avec Sarah Bernard?
La Marseillaise.
Oh non, on va pas. Encore, non. Ou alors la Marseillaise de Gainsbourg, mais bon. Sinon,
Elle ne chantait pas. Hein,
c'était non, pas mais, son truc. Non, mais je veux dire une chanson. Enfin,
il y en a plein de chansons.
Une musique
sur le sexe, sur les prostituées, sur les cocottes. Il y en a plein.
Ouais.
Est-ce qu'elle n'était pas amie avec Reynaldo Hahn? Je sais plus.
Si.
Bah ouais.
À Cloris.
Eh ben, il y a de belles mélodies.
À Cloris, c'est magnifique.
Voilà, bon, on va déjà écouter la bande-annonce et puis après, hein?
La bande-annonce, elle est où? C'est laquelle, madame?
Il y a
YouTube.
Je peux lire quelque chose en attendant?
Oui. Oui. Bon, vas-y, lis.
Bien sûr.
Mais après, il faudra jouer. ne pas que lire, jouer. Enfin, je veux dire...
En fatigue, à la Sarah Bernard.
Non, mais... Point n'est besoin d'être jolie.
Voilà.
Il faut le charme. Ça vous va comme ça?
Oui, très ça bien. Va très bien.
Point n'est besoin, le public est insatiable. Les journalistes aussi. Point n'est besoin d'être joli. Il faut les larmes. Les larmes séduisent les hommes. Ils veulent vous consoler du bout de leur moustache. Point n'est besoin d'être riche. Il faut lever des fonds. J'ai toujours été une guerrière. J'ai toujours été la première. J'ai conquis le monde entier. Tué mon serpent affamé à bout portant alors qu'il attaquait et déchiquetait mes coussins. Point n'est besoin d'être joli. Il faut les armes. Point n'est besoin d'être joli. Il faut avoir l'air d'une dame. On a toujours ri de ma silhouette de fil de fer. On m'a toujours dit que j'avais de beaux yeux verts. En fait, ils sont saphirs. On ne m'a parlé de mon nez que pour me dire que j'avais un faciès de juive. Pas le nez ? Mais si, les narines. Mon visage a toujours été une blague, un cartoon. Un visage se fabrique, se façonne, se farde. La brune doit mettre très peu de rouge aux joues et prendre soin de rendre invisible ce petit duvet au-dessus des lèvres. Cela donne un aspect sale qui dépare le plus joli visage. La brune peut se rougir les lèvres le plus possible, surtout si elle a les dents blanches. La blonde doit poser son rouge très haut sur les pommettes. La bouche doit être plus claire, d'un rose assez vif. Quant à la rousse, elle flamboie, elle éclabousse comme un soleil. On la voit de partout. Ma sœur est typée, certes, mais les hommes se retournent sur elle. C'est ta sœur ? C'est ma sœur. Elle est belle, elle. Charmant. Aimée de ma mère, elle. Mais si malade. Je me suis rattrapée en me faisant couper la jambe.
Ah ouais. Et ça c'est tiré de son autobiographie ou non, même pas. C'est toi qui a réécrit, qui a écrit le...
C'est un... Il y a des choses que j'ai écrites, il y a des choses qui sont tirées de son art du théâtre. Parce qu'elle a écrit un texte sur l'art du théâtre, où elle explique comment il faut jouer la comédie.
Ah oui.
Parce qu'elle donnait des cours de théâtre à la fin de sa vie, puisqu'elle était quand même une référence.
Ah oui.
Quand même.
Quand même, oui, c'est vrai.
Alors, on va écouter quand même la bande-annonce, on va voir. Oh, elle est légère, elle est pas... Elle est rigolote surtout, parce que ça fait... C'est un clip aussi, hein, c'est un genre de petit clip.
Bah, le clip, c'est la musique, là, c'est plutôt parlé. C'était tourné...
J'ai rencontré une comédienne à Paris qui s'appelle Isabelle Sprung et qui prépare un spectacle.
Ah oui, j'en ai entendu vous. Parler. Elle n'est pas seulement comédienne, elle a écrit le texte. Elle a écrit le texte.
Je crois,
avec
oui.
Avec Pascal Yéba.
Tout à fait. Le thème du spectacle.
Le thème du spectacle, elle m'a parlé de mes amants, c'est sûr.
C'est le
plus beau, c'était Mounet sur... Mais jaloux. Si vous comprenez, moi j'ai un standing. J'ai des immeubles, j'ai des toilettes, j'ai mon fils qui joue au casino, faut toujours le récupérer. Et puis je vais confier la direction de mon théâtre, il a fait n'importe quoi. Bon, donc il faut absolument que je vive. Et donc, vous comprenez.
Ah, voilà, ça se termine avec Agloris de Reynaldo Hahn, qui était un grand ami de Sarah Bernhardt.
Ah, d'accord. Ah oui, alors il y a l'histoire de... Je ne sais plus de... Tu parles de ses amants, oui, effectivement.
Oui, on est un peu obligé de parler de ses amants, parce que le public veut du croustillant. J'aurais pu le mettre dans le...
Oui, mais alors Mounet Sully...
Le public veut du croustillant.
Mais Mounet Sully qui se souvient de Mounet Sully, c'est ça qui est triste un peu, mais...
Et c'est ça le destin des comédiens.
Ben oui.
Et ils ne laissent de traces que dans la mémoire. parce qu'il n'y a pas d'écrit.
Voilà, tout le monde a entendu parler de Montessulier, mais bon, après...
Tout le monde ne sait pas. Mais même les jeunes, vous demandez aux jeunes... Tu viens voir mon spectacle sur Sarah Bernard, ils me disent, c'est qui?
Ben oui.
Ben oui, ça y est.
Ben oui, c'est ça.
C'est fini.
C'est triste, hein. Mais on remarque, c'est bien.
Je sais pas.
L'être humain est tellement vaniteux que bon, ça c'est bien pour ses chevilles, quoi, c'est tout.
Au Petit Palais, j'avais assisté à la conférence de Sébastien Azopardi qui a
descendant. Ah oui, son petit-fils.
Azopardi, c'est son descendant.
Ah, quelle chance. Ouais. Ah, quelle chance d'avoir assisté à ça.
Ah oui, j'ai eu du bol parce qu'il a d'abord parlé d'après Edmond Rostand, texte sur Sarah Bernard. Et il a fini justement, tu en parlais tout à l'heure, de sa voix, parce qu'il disait c'est pas possible quand j'entends la voix. Je crois que c'est Sacha Guitry qui a dit, mais non, elle se serait adaptée à notre époque.
Bah bien sûr, voilà. Mais bien sûr.
Oui, puis de toute façon, les enregistrements de l'époque, ils n'étaient pas très bons. Hein.
Non, c'est pas
on
pareil.
Peut pas, voilà, on ne peut pas s'y fier complètement.
Moi, c'était une pionnière. Elle est allée voir Thomas Edison la nuit aux États-Unis sous la neige pour être une des premières à enregistrer. Et lui, vous ne voulez pas la voir.
Ah ouais, d'accord.
Oui, non, mais...
C'était quand même... Elle était dangereuse, quelque part. Hein. Enfin, je veux dire, elle faisait des trucs... heureusement qu'elle...
Elle n'avait pas de limite, je pense.
Oui, qu'elle avait des bons motifs, parce que dans le cas où ses motifs n'auraient pas été... c'est un genre de personne qui te fait peur, quand même. On ne veut pas de toi, mais tu y vas quand même. C'était sa devise, quand même.
Oui.
Voilà. Hein, non. Si.
Voilà, oui.
Elle adorait son fils, elle adorait ses petites filles.
Oui, Lysiane.
Et Simone.
Oui.
Je pense qu'elle aurait adoré les réseaux sociaux, hein, Sarah Bernard.
Je ne sais pas si elle aurait adoré, mais elle s'en serait servie.
Ah oui, énormément, oui.
À bon escient.
Ah oui,
ah, oui. Ça aurait quand même été une vedette. Ah oui. Dans notre siècle.
J'avais vu aussi, elle collectionnait les chaussures, qu'elle avait beaucoup de chaussures, j'avais entendu ça. Ouais. Elle était une fan de chaussures.
Surtout le pied gauche.
Ah, oui. Ah bah bien sûr.
Et Fabien l'a remarqué, et moi aussi d'ailleurs, tu portais une superbe robe.
Une belle robe. Hein. Je me demandais, est-ce que c'est une robe confectionnée
J'ai acheté... Oula. C'est un exercice de dictionche. Je l'ai acheté chez Stock à tout prix à Vincennes. Et je salue la personne qui m'accueille à chaque fois si gentiment.
Stock à tout prix, je ne connais pas. Oui.
Il y a des trésors.
Ah bon?
Parce que
chaussures aussi, elles viennent de là.
Parce que je pensais que c'était de la couture. Enfin, voilà. Et puis rajouter aussi des petits froufrous, rajouter tout ça et tout. Et voilà.
Et puis le turban.
Oui, voilà. Ouais.
Elle a le turban, oui.
Parce que vous allez bien, c'était du sur-mesure, là, on aurait dit. C'était...
C'est pour que je n'attrape pas la grosse tête.
Ouais. Mais franchement, oui, c'était... moi, je pensais que c'était fait à la main. C'était vraiment... voilà.
Alors, hier, c'était la première.
Absolument.
Et il y avait du monde, hein. Oui, c'était mondé. Hein, oui, bravo, c'était mondé.
Merci à vous d'être venu.
Ouais.
C'est normal.
Alors, nous, on a tous aimé, hein.
Oui,
bien sûr.
Moi, je sais que j'étais émue, hein, à un moment donné.
Ah.
Surtout quand...
Moi aussi, à la fin, j'ai pas envie de pleurer.
Quand tu as dit un extrait de Phèdre, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que, tout à coup, ton visage devenait lisse. Tu devenais Phèdre, quelque part. Tu étais Phèdre.
Je l'aime beaucoup, ce rôle.
Parce que souvent, on trouve que tu as un petit côté drôle... Mais là, j'ai vu chez toi ton côté tragédienne. Alors, ça, j'ai aimé. Parce que j'ai découvert. Je connaissais moins.
Ah bon?
Mais oui.
Pourtant, dans Fréhel, il y avait des moments tragiques.
Oui, bien sûr. Mais.
Dans Guerre et Paix.
Là, il y a le contraste. J'ai pas vu Guerre et Paix. Là, il y a le contraste.
Ah oui.
Il y a le contraste entre. Mais si, parce que je sais pas. J'ai ressenti ça, je sais pas pourquoi, ça m'a touché ce registre là d'être capable de passer de l'humour et tout à coup d'être au théâtre un personnage comme Phèdre ou
plus mélancolique
Ruy Blas Phèdre c'est pire que mélancolique hein, c'est quand même tragique
oui c'est terrible
ouais. Et je trouve ça, c'est la comédienne. La comédienne est capable de passer d'un registre à l'autre, comme ça, dans une même pièce. Et ça, je trouve ça... Ça me touche. Ça me touche, oui. Et comment a été accueilli alors le spectacle?
Ah, le public qui m'a attendu, parce que certaines personnes sont parties sans me dire au revoir.
Ah bon?
Bah oui, parce qu'elles ont un train, elles ont demain le foot, elles ont des tas de choses à faire, ou elles sont fatiguées, elles ont faim, je sais pas. Mais les personnes qui m'ont attendu avaient des étoiles dans les yeux.
Ah, c'est joli.
J'étais très heureuse. Parce que je vois bien si les gens sont pas très contents, ou s'ils sont un peu indifférents, ou s'ils sont vraiment contents. Là, ils étaient très 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 contents.
Bon, c'est...
Et moi aussi.
Tant mieux.
Donc, ça veut pas dire que c'est acquis. Il faut chaque jour remettre sur le métier son ouvrage. Et voilà, je sais pas comment va se passer la suite. Mais hier, j'étais vraiment comblée.
Ah oui, c'était voilà. Bien. Puis c'est un grand rôle, c'est vraiment un grand rôle. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est un seul en scène. Non. Tu occupes la scène de bout en bout et tu n'es pas une conteuse, tu vis l'histoire de la vie
de Lévi,
oui. Oui. En même temps qu'il format tout. Hein,
oui, parce que quand même, c'est Rostand qui le dit. Je pense que c'est le texte qu'a lu Sébastien Azopard, qui est au début de l'exposition.
Oui.
Mmh. Au Petit Palais. Enfin, qui était, puisqu'elle est finie. Ouais. Et donc, il décrit son emploi du temps.
Ouais.
Et c'était jusqu'à 3h du matin.
Ah ouais.
Et ça m'a fait penser, quand j'ai lu cet emploi du temps, ça m'a fait penser à l'emploi du temps de Mozart.
Ah ouais.
Et je pense qu'elle était du niveau génial de Mozart dans sa discipline, pas dans la musique, mais...
Ah oui, d'accord, oui. D'accord.
D'ailleurs, elle a joué Mozart aussi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, elle avait un charisme extraordinaire, c'est sûr.
Elle ne craignait pas de jouer les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux.
Les glons, oui. Quand même. À 60 ans, elle avait joué. Elle avait 60
50.
Ans. 50 ans, bon, 50. Oui, quand même.
Ça vaut 60 d'aujourd'hui, oui.
Eh bien, on va faire une petite pause. Tu as reçu, Nicolas, le texte enregistré par Jean-Marie. Alors là, on va entendre parler d'un grand peintre qui s'appelle Vincent Van Gogh.
Ah, très bien.
Complainte de Vincent, dédiée à Paul Éluard, par Jacques Prévert. À Arles, où roule le Rhône dans l'atroce lumière de midi, un homme de phosphore et de sang pousse une obsédante plainte comme une femme qui fait son enfant. Et le linge devient rouge, et l'homme s'enfuit en hurlant, pourchassé par le soleil, un soleil d'un jaune strident au bordel. Tout près du Rhône, l'homme arrive comme un roi mage. Avec son absurde présent, il a le regard bleu et doux, le vrai regard lucide et fou de ceux qui donnent tout à la vie, de ceux qui ne sont pas jaloux et montrent à la pauvre enfant son oreille couchée dans le linge. Et elle pleure sans rien comprendre, songeant à de tristes présages, et regarde sans oser le prendre l'affreux et tendre coquillage où les plaintes de l'amour mort et les voix inhumaines de l'art se mêlent au murmure de la mer et vont mourir sur le carrelage. Dans la chambre où l'édredon rouge, d'un rouge soudain éclatant, mélange ce rouge si rouge au sang bien plus rouge encore de Vincent à demi-mort et sage dans l'image même de la misère et de l'amour. L'enfant nu, toute seule, sans âge, regarde le pauvre Vincent foudroyé par son propre orage qui s'écroule sur le carreau, touché dans son plus beau tableau. Et l'orage s'en va, calmé, indifférent, en roulant devant lui ses gros tonneaux de sang, l'éblouissant orage du génie de Vincent. Et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant, et le soleil au-dessus du bordel, comme une orange folle dans un désert sans nom, le soleil sur Arles, en hurlant, tourne en rond. Merci.
Et voilà, si vous voulez faire vous-même un montage pour cette émission sur les propos qui furent tenus tout à l'heure à propos de Reynaldo Hahn à Cloris, et bien vous insérez cette interprétation par Philippe Jaroussky. Et d'ailleurs, si vous voulez faire vous-même le montage de cette émission, vous insérez la voix de Sarah Bernard.
Veille de Racine, par Madame Sarah Bernard. Oui, j'ai l'envie, je brûle pour tes yeux, je l'aime. L'enfant, celle qui remplit les enfers, voilà, adorateur de mille objets divers. Tu vas du Dieu des morts, déshonorer la couche. Mes fidèles, mes fleurs, et même tes parents, tes charmants jeunes, traînant les sœurs après toi, celles qu'on dépanne aux dieux, ou celles que je vous vois. Il avait votre corps, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque dans notre crête, il traversait les flots, diffusait des vœux, des filles de nôtres. Et que faisons-vous alors? Pourquoi tant du polygère ou de la Grèce à tant d'Athénélite? Pourquoi trop jeune encore? Ne puis-vous alors entrer dans le vaisseau qui nuit sur nos bords? Par vous, j'aurais tiré le monstre de la traite, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer la barrage incertain. Ma sœur, d'ici le fatal, eût armé votre main. Mais non, dans ce destin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. Poussez-moi, prince, poussez-moi, dont l'utile secours vous eût dû d'être intensé le détour. Peu de soin, ni toucher cette tête charmante. Ainsi, une fois assez, rassurez votre amante. Et compagne de série, si vous fallait chercher, moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher. Et cèdre labyrinthe avec vous descendu, et se prête avec vous retrouver ou perdu.
Et devant la difficulté à tendre l'oreille sur un enregistrement qui a 120 ans d'âge, vous comprenez pourquoi nous on est tout heureux d'avoir Isabelle Sprung pour faire revivre Sarah Bernhardt.
Oui, et même je trouve qu'elle a un débit de voix très rapide. Hein. Je sais pas
oui,
si c'est le disque.
Oui, j'ai remarqué ça, oui.
Hein, c'est étonnant.
Oui, oui, je pense que c'est le disque aussi.
Ah, c'est le disque aussi hein, qui doit oui. faire ça. Hein. Mm. Oui, oui, enfin, l'enregistrement est coussi-coussa, quoi.
Voilà, et puis je crois qu'à l'époque, on ne jouait pas du tout la comédie comme maintenant. C'est comme lorsqu'on écoute les films ou on regarde les films, les enregistrements des années 50, on est toujours très étonné aussi.
Oui. Moi, j'ai entendu Apollinaire dire oui. Je suis pour Mirabeau. J'étais très étonnée par, oui. par sa voix. Je me disais, oui. zut, je préfère avoir lu le poème tout seul, mais j'ai beau avoir une grande admiration pour Apollinaire, je n'ai pas trouvé que son interprétation était convaincante. Enfin bon, ça c'est aussi une histoire d'époque.
Oui, c'était une mode.
Une mode, oui.
C'est alors, il y a le ton de voix de Gérard Philippe aussi, un petit peu.
Ça commence à être démodé, oui. Oui. D'ailleurs, ce qu'ils font, j'ai remarqué pour les disques pour les enfants, parce que Gérard Philippe avait enregistré Le Petit Prince ou La Vie de Mozart,
mais
etc.
Mais je trouve que ça a du
et
charme.
Ils font refaire par tout le monde.
Ça a du charme.
Des
Gérard
acteurs.
Philippe, bon d'accord, il est assez emphatique, mais je trouve que ça a du charme, justement oui. parce que ça n'existe plus. Les gens, ils compliquent comme ça. Mais même Sarah Bernhardt, j'aime bien aimer entendre sa voix.
Ah oui, elle a une belle voix. On entend que c'est une belle voix, oui.
Elle a. Oui, oui, elle a
et
du souffle.
Elle, hein. elle ressent ce qu'elle dit.
Elle a du souffle. Hein. Ah oui, oui. Non, mais pour faire passer les émotions, la passion, les émotions et la passion sont des. Ce sont des choses assez extraordinaires que dans la vie courante, les personnes ne s'amusent à exprimer ses passions. On dit bonjour, ça va, comment vas-tu, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Là, c'est vrai, les communications entre individus, c'est d'une convention. c'est vraiment très conventionnel, quoi. Maintenant, les gens, à moins de parler sur les réseaux sociaux, c'est pareil, ça devient très conventionnel, hein, même dans les réseaux sociaux. Hein, je suis désolée, mais hein, quand je lis les commentaires, ça reste très, très bateau, quoi. Et ce que j'aime dans ce genre d'expression-là, de tragédienne, ce que j'aime, c'est qu'ils sortent, il faut bien les sortir, les émotions. Ils les sortent de manière qui nous paraissent étrange, mais ça existe. Hein. C'est vraiment de l'intime, c'est vraiment du corps, et c'est quelque chose qu'on peut entendre parfois qu'au théâtre.
Oui, c'est la catharsis.
Oui, c'est la catharsis. On peut l'entendre qu'au théâtre.
Oui, et on peut le vivre comme ça, par procuration.
Oui, par procuration, oui. Exactement.
Ouais, voir ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et réfléchir ensuite.
Tu disais à la fin du spectacle que tu avais mis des années, il y a des années que tu songeais à jouer, enfin à interpréter le personnage de Sarah Bernhardt.
Oui, oui, je n'y songeais pas de façon très précise, mais elle m'a accompagnée depuis que je l'ai travaillé son personnage dans Sarah et le cri de la langouste au cours de théâtre.
C'est quoi Sarah et le cri de la langouste?
C'est une pièce de théâtre où Sarah Bernhardt est à Belle-Île avec son secrétaire, Pitou, et elle écrit sa biographie.
Et le cri de la langouste, lui, c'est marrant ça.
Oui, c'est la fin. Le cri de la langouste, c'est quand elle meurt.
Et pourquoi, ça veut dire. Pourquoi la langouste, elle crie avant de mourir
avant de la bouffer, on va prendre tout au premier degré, mais tu vois, les oiseaux se cachent pour mourir, le chant du cygne, enfin, tu connais toutes ces expressions.
Ça fait bizarre. Non, moi, c'est...
Mais en tout cas, c'est une pièce de théâtre qui a été montée par Delphine Sering
et George Wilson. C'est Delphine Sering qui jouait
Oui, c'est James Wilson.
Il n'y a pas eu Robert Hirsch qui a interprété plus tard le rôle. Il me semble, je ne sais plus.
Ah, je ne sais pas, c'est possible. Non, en tout cas, on a travaillé ça.
Une trajectoire, ouais, mais c'était à mourir de rire aussi.
Oui, ça c'était drôle.
Oui, non, mais avec Granny Dupéré, je crois.
Quand on a travaillé ça, après, j'ai toujours pensé à Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt disait ceci, Sarah Bernhardt faisait cela. Enfin,
ah oui, d'accord.
J'ai toujours pensé à elle.
Ouais. Mais il n'y a pas tant que ça d'actrices hein, qui aient interprété Sarah Bernhardt. Hein,
parce ah bah que au cinéma,
parce
si.
Que... Ah bon?
Enfin, aussi, j'exagère, au cinéma. Je crois qu'il y a eu Vanessa Redgrave aussi, mm-hmm. en Angleterre, qui avait interprété le rôle. Je ne sais plus qui d'autre. Mais enfin,
pas
si,
tant
si.
Que ça, oui, quand même.
Oui, oui, il y a eu des... Pas tellement en France, d'ailleurs, tu as raison, mais...
Parce que moi, je pense, pour interpréter, il faut une comédienne qui a une certaine trempe. Comme
tout
toi,
à fait.
Par exemple.
Tout
ouais,
à fait.
Toi, tu manques pas de trempe. Hein. C'est...
Pardon. Tu trembles, carcasse.
Ah oui, oui, quand même. Il ne faut pas une tragédienne. Il faut vraiment quelqu'un... Ouais, ouais, il faut de l'étoffe, hein, quand même. T'as de l'étoffe.
Ah ben, je te remercie, Evelyne.
Ah ben oui.
Je suis confuse.
Alors, Fabien, il voulait
te
poser des questions.
Oui, par rapport à vos clips, Isabelle, parce que moi, oui. bon, là, je ne vais pas parler de Sarah, mais vos clips, parce que j'aime beaucoup vos clips. Ils
Merci.
Sont, voilà, ils sont très originaux, comme vous, hein, Isabelle. Hein.
Ah.
Moi, je vous apprécie beaucoup parce que vous êtes atypique, vous êtes original, et pour moi, c'est des grandes qualités, et c'est ce qui me plaît chez
Merci,
vous. C'est vraiment ce qui me plaît chez vous. C'est vraiment, vous êtes mon coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé vos clips parce qu'ils sont vraiment très, très originaux. Ils sont bien mis, ils sont bien réalisés. Il y a une petite mise en scène, il y a une petite histoire, et j'aime bien les petits effets spéciaux. Voilà. Et parce que le dernier clip, là, c'est quand. Alors,
Je crois que c'est le
blues là, du vendredi
blues
soir.
Du vendredi,
voilà,
oui.
Quand vous mangez une banane, tout ça, là, je trouve
oui,
ça
voilà.
très drôle. Là. Et en fait, après, le clip, il est un peu aussi mélancolique à la fin. Donc, parce que,
le blues du vendredi, c'est terrible.
Oui, c'est terrible parce qu'après, vous êtes remplacé et tout. Vous êtes dans un. On vous voit dans un petit nuage en ange. Voilà. Et je voulais savoir toutes les idées là, de tous ces clips. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le réalisateur
C'est les. Ah c'est un peu difficile de savoir a posteriori. Parce que moi, j'arrive avec une idée, il me dit non, il me propose une autre, je lui dis non. Puis finalement, il va se passer que je vais dire, oh ben, je vais mettre un turban. Non, pas de turban. Et puis, avec Stéphane Doré, le réalisateur du clip Le Blues du Vendredi, j'attendais, il mettait les lumières et tout. Et puis, il me dit, moi, je dis, j'ai faim, j'ai mangé ma banane. Il me dit, bah, vas-y, mange ta banane. Et puis après, il me dit, regarde, j'ai filmé.
Ah, vous n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas.
Alors, je ne lui ai pas dit, mais j'aurais pu lui dire, tu sais, je suis comédienne, je suis capable de jouer quelqu'un qui mange une banane. Mais c'est sa technique.
Oui.
Ah, d'accord.
Et puis, et donc, je vais lui dire, et si on faisait ça, en fait, avec Stéphane, ça se passe beaucoup... comme ça, que je lui dis, si on faisait ça, il me dit oui. Et puis, il va le faire. Et puis, il va rajouter quelque chose.
Ah,
et il dit très rarement non. Ou alors, il me dit, tu comprends pas, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte, c'est du travail. Et je lui dis, bah oui, c'est pas grave, ça, on le fait. donc, voilà, je me rappelle que c'était lui qui avait monté, parce qu'il fait du copier-coller, il fait des montages avec des images... libre de droit, et donc c'est lui qui avait organisé sur fond vert, il me filme en train de manger la banane, et puis après il a greffé, je ne sais pas comment on peut dire, c'est le montage du décor, c'est lui qui l'a choisi. Et puis il me dit, ben voilà, on va faire un défilé, il m'apporte un blouson de militaire. Donc il y a beaucoup d'idées qui viennent de lui. Hein.
Parce que c'est, vrai que
c'est moi qui ai donné le texte. C'est lui qui a fait la musique. Et puis après, les idées, c'est...
En tout cas, vous êtes une belle équipe hein, pour ces petits clips. Hein. Ils sont très drôles et puis très agréables à regarder.
Oui, il y a plein de petits détails très drôles. Il y a aussi un autre clip, je ne sais plus
le nom. Avec la deux chevaux.
Oui, quand voilà.
Je m'envole en dessous.
Puis il y a aussi un des clips là où vous marchez, vous avez des dossiers avec vous. Quand vous marchez, vous laissez tomber vos feuilles. Là.
Ah oui, ça, c'est pas avec Stéphane, oui. C'est avec Félix Delarue et Elisabeth.
Et je trouvais ça très drôle et tout. Et après, à un moment, vous arrivez dans une espèce de mairie. Là, vous jouez le rôle de l'employé de mairie qui est en train de jouer sur un jeu du solitaire. Je trouvais ça très marrant.
Ouais, enfin, je suis Félix.
Il y a plein de créativité. Il y a plein de petites idées, tout ça. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les auditeurs à.
C'est YouTube.
Oui, sur YouTube.
Ah. YouTube, Isabelle Sproul.
Oui, et j'invite vraiment les auditeurs à regarder parce que c'est vraiment. Moi, je les ai regardés et re-regardés plusieurs fois et c'est vraiment très drôle. Il faudra faire une intégrale en DVD hein, parce que Isabelle, elle a la sortie
des. D'accord.
Moi, je l'achèterai.
On voit la sortie.
Parce qu'Isabelle, elle a la sortie des CD et un bouquin et puis maintenant, il faut que le DVD avec tous ses clips.
T'es un vrai fan là. Hein,
oui.
Vraiment... Oui, je sais.
Ah ouais, moi, j'aime beaucoup.
C'est vraiment très important. C'est
si.
Toute nue.
Bah tiens, s'ils veulent pas aller voir le clip d'Isabelle, on leur fout directement dans les oreilles maintenant.
C'est le blues du vendredi, que faire jusqu'au samedi? À l'heure où sonne minuit, à l'heure où coule la pluie. C'est le blues du vendredi, que faire jusqu'au samedi? Rester seul sous la couette, shopping en supérette. C'est le blues du vendredi, ça dure jusqu'au mardi. À l'heure où vient la nuit, à l'heure où file. Que faire jusqu'au samedi? Appeler ses amis, tourner en rond au fond. C'est le blues du vendredi, redouter le dimanche. Famille est faite de manches. Comment vas-tu, vieille branche? C'est le blues du vendredi. Que faire jusqu'au mardi? À l'heure où vient la nuit, à l'heure où
aucune banane n'a été martyrisée pour la réalisation de ce clip.
Alors, Anne, ta rubrique.
Oui, alors, j'ai retenu deux petites choses qui ont été jouées au Festival d'Avignon. J'ai été au festival, comme Evelyne, on est resté une semaine. Ben oui, donc il y a quelques pièces qui sont venues sur Paris. Mais alors là, par contre, il y a une pièce qui se joue aussi au guichet Montparnasse, juste avant la pièce d'Isabelle. C'est la pièce Van Gogh de Frères pour une vie, avec Ghislain Gégère et Julien Séchaud. Et naturellement, c'est d'après la correspondance des deux frères Van Gogh. Et c'est un très beau spectacle, je vous le recommande. Parce que ça parle de la difficulté aussi d'être le frère d'un génie. Mais alors, quel génie? Mais il y a de quoi se casser la tête aussi. C'est insupportable.
Donc,
Oh là là là.
Il était insupportable, Van Gogh?
Il était très malade.
Il était surtout très malade. Oui. Alors, j'ai vu l'autre fois, un documentaire. Van Gogh ne se serait pas suicidé. Il aurait reçu accidentellement une balle.
Oui, c'est possible.
C'est possible. Tout est possible.
Oui, mais voilà, on ne saura jamais.
Bon.
Est-ce qu'il parlait de suicide?
Non.
Parce qu'en général, les gens qui parlent de suicide ne se suicident pas. Donc s'il n'en parlait pas, il y a plus de chances que ce soit.
Mais oui.
Mais il n'a pas laissé de lettre, rien.
Je pense pas, non, je crois.
Ah bah alors, c'est pas sûr.
Je pense qu'il était dépressif quand même.
Oui. Donc,
au pire que dépressif.
Oui, pire que dépressif.
Et Théo aussi était bon, pas en très bonne santé, bon, mais il y avait une fusion entre les deux frères et elle est très bien faite dans ce spectacle. Donc je vous conseille Van Gogh, Deux frères pour une vie. Ça se joue tous les vendredis à 19h jusqu'au 22 décembre.
Au guichet Montparnasse.
Au guichet Montparnasse, avant Madame Sarah Bernard. Voilà, il faut le dire. Alors,
ça me met en forme, je les entends hurler.
Alors j'ai vu aussi, alors comme on parlait de Zola, de Dreyfus, j'ai vu, tu l'as vu toi, Les Téméraires.
Oui, j'ai vu, c'est une très bonne pièce. C'est une très très bonne mise en scène,
oui.
c'est très dynamique,
voilà.
Les décors sont super, puis on apprend des choses que...
Oui, moi je ne savais pas que Méliès avait fait un film sur Dreyfus.
Avoir une documentation là-dessus, parce que j'ai jamais entendu parler de Méliès comme défenseur
de Dreyfus.
Et là, voilà. Ils en parlent. Et les comédiens sont excellents. Celui qui joue Zola, c'est très agréable. Bon, j'aurais peut-être un petit reproche, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas grand-chose, hein, qu'on le sache déjà.
Oui,
mais
c'est
bon,
sûr,
ça, c'est pas grave. Hein, oui. Bon, bah, après.
C'est parce que vous êtes bien documenté.
Oui, c'est du théâtre.
C'est du bon théâtre, bien fait par Charles, la mise en scène de Charlotte Masneff.
La mise en scène est très bonne, quoi. C'est du bon théâtre qui est à la fois divertissant et instructif. Mais c'est pas une pièce didactique qui va sur le fond. Mais enfin, c'est pas grave.
Parce que justement, on voit que Zola, le grand Zola, bon, avait aussi ses faiblesses. Et, et sa jeune maîtresse Jeanne est enceinte de lui. Et il n'a pas osé le dire à Alphonsine, son épouse légitime.
Il a eu raison.
Maintenant, Alphonsine a été une grande dame parce qu'elle, quand même, après, à la fin, elle a recueilli elle a accepté que Zola reconnaisse les enfants. Et elle les a toujours soutenus, les enfants.
Oui. Mais ça, c'est la rubrique, je ne sais pas, Closer ou...
Même pas Closer.
Mais c'est pas grave, remarquez, ça fait partie de l'histoire de Zola.
Bon, oui, parce que on parle toujours des grands hommes, et Samuel Victor Hugo aussi avait ses faiblesses.
Ce n'est pas des faiblesses, ce sont des hommes, et puis c'est tout.
Voilà.
Alors
attends, ça se joue, Les Téméraires se jouent à la Comédie Bastille jusqu'au 30 décembre, du mercredi au dimanche. Il y a différents horaires, vous verrez bien. Mais c'est vraiment une très bonne pièce, moi je vous la conseille. Et j'ai vu aussi Pauline et Carton, sur Pauline Carton bien entendu, qui se jouera à la Scala Paris les samedis et dimanches, à partir d'octobre d'ailleurs, je crois bien. C'est sur Pauline Carton, moi j'aimais bien, mais je connais... c'est vrai que dans la salle, il n'y avait pas de grand... Il n'y avait pas beaucoup de jeunesse. Pauline Carton, Pauline Carton, c'est quand même... surtout Sacha Guitry, c'était la concierge du cinéma français, un peu, Pauline Carton. Mais la Christine Murillo,
c'est la sœur de Catherine Salvia.
La sœur de Catherine Salvia et la demi-sœur de Marie-Sylvia Manuel.
Marie-Sylvia Manuel qui est venue
que nous connaissons bien aussi.
Voilà.
Murillo a interprété les textes que Pauline Carton a écrits, ses souvenirs, et puis son grand amour, le poète Jean Violette, et puis son idole Guitry. Il ne fallait pas dire du mal de Guitry parce qu'elle fonçait dans le chou. Hein, là, Pauline, ça n'allait pas. Hein. Il ne fallait surtout pas qu'on critique Guitry, monsieur Guitry. Elle dit qu'il a eu la mauvaise idée de mourir en 57. Enfin, quand même, franchement. Voilà. Non, mais vraiment, moi, je vous...
C'est vrai que c'est pas toujours une bonne idée de mourir.
Non, c'est vrai, c'est bête. Hein. Donc, moi, je vous conseille ce spectacle qui s'appelle Pauline et Carton, avec Christine Murillo, mise en scène de Charles Torgeman. C'est peut-être ce que j'ai retenu d'Avignon. Il y en avait d'autres deux pièces, mais qui sont pas sur Paris actuellement. Peut-être l'an prochain, on sait pas. Hein. Donc, il y a celle-ci que j'ai retenue.
Vous aviez été voir combien de pièces quand vous aviez été à Avignon toutes les deux?
Dans la semaine, j'en ai vu une vingtaine.
C'est pour c'est
ça
beaucoup.
Qu'en fin de compte, vous êtes mon premier spectacle de rentrée de Paris.
Ah, d'accord. Ah. Ça vous a fait du bien de faire une pause.
Exactement.
Il fait tellement chaud à Avignon.
Ah oui. Bah là, ici plus... aussi.
Oui, mais là-bas, quand on va à plusieurs spectacles dans le même jour, il faut courir partout.
C'est pour ça que je comprends.
On arrive, on est en âge. Enfin, c'est très fatigant. Hein,
c'est fatigant. Et puis, bon, j'ai vu de bonnes pièces. J'ai eu la chance de voir, comment ça s'appelait, avec Catherine Jacob. Elle est tombée malade au bout d'une semaine parce qu'elle n'a pas tenu le choc. C'était comment que ça s'appelait le...
Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais.
Enfin bon. Alors elle a tenu, donc c'était au théâtre des Gémeaux, donc ils ont pas dû être très très contents parce que c'est dommage, c'était une pièce marrante avec Catherine Jacob, mais bon.
Et elle a pas été remplacée, l'actrice, la comédienne n'a pas été. Non, ils ont carrément annulé la pièce.
Ils ont préféré annuler la pièce.
Ah mince. Ouais.
Donc, Catherine Jacob, se mesurer à Catherine Jacob. Fallait appeler Pascal Diévin.
Oui. Ah oui, exactement.
Alors, voilà. On va, parce qu'il nous reste quoi, quelques minutes, pas tant que ça, hein, parce que le temps il court, il nous attend pas.
Oh là là.
Le temps nous attend pas. Hein. Donc, un petit dernier extrait in live.
Oh yes, sir.
Sarah, Isabelle.
Je viens faire imprimer une affiche. Vous êtes seule? Tout le monde est en famille pour réveillonner? Vous travaillez même le soir de Noël? Moi aussi. Vous êtes, monsieur? Mouche? Ach, mensch! Chez les Esquenazes, mensch, ça veut dire un homme bien, un homme intègre et fiable. Comment ça se prononce? Moura? Ah, moura, comme l'Echaim. Ça veut dire à ta santé, l'Echaim. Moura, joyeux Noël! Frohes Weihnachten, Herr Moura! Quel joli accent vous avez! Vous êtes tchèque? Je suis d'origine hollandaise. Je suis une porcelaine de Delft. Comme c'est beau, cette peinture! Faites voir! Vous en avez d'autres? Quel talent vous avez! Je m'y connais, vous savez, j'ai l'œil. C'est un art vraiment nouveau que vous pratiquez là. Je vous embauche. Je vous commande toutes les affiches des spectacles que je monte au théâtre de la Renaissance. C'est mon théâtre. Toutes, vous entendez bien? Toutes. Vous ne travaillerez que pour moi. Réjouissez-vous. Vous voilà riche et célèbre. Je veux, pour le 1er janvier, oui, avant une semaine, et alors? Pour la promotion de la pièce de mon très cher Victorien Sardou, en haut, le titre, Gismonda. En arc de cercle, comme une auréole, mon nom en lettres d'or, Bernhard. J'ai rajouté un H, ça fait plus artiste. Ma tignasse dorée, ma silhouette serpentine et longiligne, j'y tiens. Je mesure 1m54. Ne croyez pas ceux qui disent de moi, elle est tellement menteuse qu'elle est peut-être grasse. Oui, vous avez raison. Une affiche verticale, c'est tellement novateur. Habillée à votre gré, une robe blanche à la grecque, des palmes à la main, un manteau de brocart, je fais confiance au génie du créateur. En bas, le nom du théâtre, bien sûr, et celui de l'imprimeur, si vous voulez. C'est joli ce que vous faites là. Moi-même, je peins, imaginez-vous. Et oui, je suis tragédienne, mais pas que. Sculptrice aussi.
Et oui. D'ailleurs, on voit des photos de ses sculptures. Hein.
Oui.
Et Rodin disait qu'elle n'avait pas de talent.
Rodin dit à qui veut l'entendre que mes sculptures sont nulles. Ça me fait une belle jambe.
Ben non, mais elles n'ont pas l'air si mal que ça. Hein. Moi, j'ai mis des photos.
Il y a une sculpture d'un enfant qui est très jolie, très belle.
C'est Regina, c'est sa petite sœur.
Ah, oui, c'est Regina, oui, c'est vrai.
Et donc là, Moura, c'est Moucha.
Mais...
Ouais, on prononce Moura, parce que mais quand on le voit écrit, c'est marqué Moucha. Moucha.
Oui, mais
c'est plus connu, nous.
Moura, c'est Moura.
Nous, en tchèque, c'est Moura, je ne le savais pas, je viens d'apprendre, c'est formidable, j'apprends tous les jours. Et par contre, on les voit partout, les reproductions de Moucha, avec Sarah Bernard, justement.
Mais il y avait une
expo, elle qui l'a rendu célèbre.
Oui, il y avait eu une expo sur lui, quelques années, je crois que c'était au Grand Palais.
Ah, là, il y en a eu une en ce moment.
Ah bon? Ah oui, mais c'est au...
Je sais plus où. À Carnavalet?
Non. À Carnavalet, il y en a quelques-unes de Sarah Bernard. Alors, Sarah Bernard a créé aussi la Tosca.
Oui, et c'est là qu'elle s'est fait très mal à la jambe.
Eh bien oui. Et alors après, tout, bon, la Tosca, on la connaît mieux avec l'opéra de Puccini, il faut le reconnaître. Mais bon, ben, c'est vrai qu'elle a créé le rôle. Et je crois que c'est, d'ailleurs, c'est Puccini, en la voyant jouer, qui a eu l'idée de faire un opéra.
Oui, c'était une auteure, une muse, une peintre, une tragédienne, une directrice de théâtre, une styliste, créatrice
de
décor, architecte d'intérieur, faisait construire.
Et elle menait, elle menait les hommes à la baguette, où finalement les hommes étaient juste pour se distraire, quoi.
Je crois qu'elle ne menait pas que les hommes à la baguette, mais un peu tout le monde.
Ah bon ?
Peut-être pas son crocodile.
Mais oui, c'est
extraordinaire. Elle avait une ménagerie, un tigre. Oui. À un moment donné, il est question de qu'elle fasse venir un tigre, et puis elle a peur pour son petit chien qui s'appelle Hamlet.
Oui, ça, j'ai un peu inventé la scène.
Ah bon ? Ah, d'accord.
Ce qui est vrai, c'est qu'à Londres, elle a voulu fêter le fait qu'elle n'a pas été virée, passez-moi l'expression.
Ouais.
Elle a été s'acheter un tigre pour fêter ça.
Ah d'accord.
Puis ça a donné un guépard. Alors voilà, j'ai imaginé la scène, la rencontre entre le guépard et le chien.
Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Pourquoi ? Parce que du tigre au guépard, il y a quand même un petit décalage, non ? Enfin bon, c'est pas grave.
C'est pas la même bestiole.
Ben non, pas du tout.
C'est pas les mêmes fauves.
Non, pas du tout. Un tigre ?
Elle voulait un tigre, il n'y en avait pas.
Ah, elle a pris un guépard.
Voilà.
Ah ouais.
Ok, it will do.
Ah oui, d'accord. Elle a vraiment peur de rien. Moi, je ne voudrais pas un guépard chez moi, franchement. Enfin, voilà. Je veux dire...
Alors, soit elle avait peur de rien, soit elle aimait beaucoup les animaux. Ça, c'est vrai, elle aimait beaucoup les animaux. Sans doute, oui. Quand elle était petite, au couvent, elle observait les araignées pendant des heures. Elle s'en occupait et tout.
Elle aimait les araignées aussi ?
Oui, oui, elle aimait beaucoup les animaux. Et puis, elle a dû se rendre compte que ça terrorisait tout le monde et que ça lui faisait de la publicité.
Tiens donc.
Donc, elle s'est dit... Moi, je me suis dit, je vais aller faire une parade au guichet Montparnasse avec une bestiole.
Ah oui, mais toi...
C'est pour ça, je ne l'ai pas fait, j'ai fait le clip où on voit avec un dinosaure.
Toi non plus, tu n'as peur de rien. mais, et puis, il y a cette fameuse devise, quand même. C'est-à-dire, quand même, j'y vais, quand même... j'y vais quand même.
Oui, ben oui.
Voilà, même... Qu'est-ce que ça veut dire, j'y vais quand même ? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive,
voilà.
J'ai décidé d'y aller et j'y vais.
Voilà, tu ne sauteras pas, même pas peur.
Même pas peur.
Quand même.
Ah, voilà.
Et alors, je me casse les jambes. Bah, oui.
Ah non, mais faire gaffe quand même.
Enfin, bon. Elle, quand même.
Donc, on va quand même dire où ça se passe, l'adresse, les jours
les horaires.
Et les horaires.
Ah.
Et jusqu'à quand ?
Et jusqu'à quand ?
Ah, oui. Alors, j'y vais ?
Oui, allez. Oui.
Alors, le titre, c'est « Les doubles vies de Sarah Bernhardt » de Pascal Liévin et Isabelle Sprung. Mmh. Joué par Isabelle Sprung, mise en scène par Pascal Liévin. Au guichet Montparnasse, au guichet, parce qu'il y a plusieurs théâtres hein, par là, c'est le guichet Montparnaise, 15 rue du Maine.
Rue du Maine, oui, pardon.
Parce qu'hier, il y a quelqu'un qui a essayé d'aller à l'avenue du Maine et qui n'a pas pu rentrer parce qu'il arrive en retard. Rue du Maine.
Ouais.
De toute façon, tout est sur Internet.
Hein. Oui, tout à fait.
Oui, mais tout le monde n'a pas Internet.
Mais si,
mais non.
Si, si, si. Mais bon, ils peuvent. Ben, rue du Maine, métro Edgar Quinet, à 20h30.
Ou Gaîté. Métro Edgar Quinet ou Gaîté.
Oui, si vous voulez.
Bon,
d'accord.
Mais pas si je veux, c'est comme
ça. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi Montparnasse et puis il y a aussi des bus.
Voilà. Bon,
alors. Sinon, vous pouvez y aller à pied ou en trottinette ou à vélo. Et en moto.
Non,
et en voiture.
Ouais, d'accord. En montgolfière.
Et en montgolfière, non. Ça...
Pas tout de suite.
Ça se joue j'en étais où alors
oui. Ça se joue les
vendredi, samedi, dimanche, VSD.
Voilà, VSD.
Vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 16h30, jusqu'au 29 octobre. Si vous voulez venir de la part de Radio Libertaire, vous avez un tarif réduit. Mot de passe Zaza, 11 euros.
D'accord.
Oh, ouais, c'est
Zaza,
très gentil.
Zaza, 11 euros, qu'on se le dise.
Mot de passe Zaza, 11 euros. Vous appelez le théâtre, vous dites j'ai écouté l'interview Radio Libertaire.
D'accord. Très
d'accord.
Bien. Très bien.
Jusqu'au 1er octobre.
Jusqu'au 1er octobre. D'accord. Voilà.
Mais venez ce week-end, c'est mieux.
Oui, bien sûr.
Comme vous avez fait, vous êtes venu la première, vous avez fait ce qu'il fallait. Eh ben, bravo.
Voilà, merci beaucoup.
Merci infiniment.
On vous souhaite plein de bonheur, plein de succès, Isabelle.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi.
Bah oui. Merci, hein, Isabelle.
Merci quand même.
Ouais.
Merci quand même. Après 3 semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fier, un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine et de sniffer de la coco. Mais ça coûte cher tous ces machins. Alors pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive avec aux lèvres un rictus. J'ai fumé de l'eucalyptus. Alors mon âme torturée ne connut plus que d'affreux jours. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu d'une main câline couper le traître en petits morceaux, leur coller à la sécotine pour leur découper aussitôt. Mais je l'aimais tant l'animal, alors pour pas lui faire de mal, j'ai brisé de la naphtaline les cheveux à gala hérissés. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai prisé de la naphtaline. Que je fais là, Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'alléger la vie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de Belloc, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors, j'ai pauvre loque, essayer d'un autre exutoire. Mais le pire c'est que j'ai pris le pli, et c'est tant pis que le pli pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends la seringue, j'en bois même. Alors il m'a poussé des ailes. Je me pique à l'eau de Javel. Oh, j'ai du chagrin.
Radio Libertaire 89,4 MHz. Dans 2 minutes, ça sera Bulle Noire, magazine du Polar. Je vais essayer d'attraper Evelyne quand même pour qu'elle nous annonce les invités de la semaine prochaine. Viens nous dire ça en régie directement, Evelyne, pendant qu'on libère le studio. Ici, ici, il y a un micro ici. Pendant qu'on libère le studio pour Bulle Noire, qui as-tu prévu?
Il me semblait que je t'avais envoyé un mail. Alors, j'avais noté ça dans... Alors, il y a la nostalgie des Blattes. La semaine prochaine, il y aura les comédiennes qui jouent la nostalgie des Blattes. Et une comédienne qui joue un seul en scène. C'est J'écris dans le noir et c'est l'histoire de, d'une femme. Alors, c'est... Ça a un rapport avec un film, cette histoire de faits divers d'une femme qui tue son amant. Clouseau l'a mis en scène avec Brigitte Bardot. Et là, c'est l'histoire de cette femme qui... c'est un fait divers, mais c'est à travers l'histoire de cette femme. Je n'ai pas encore vu la pièce, mais j'ai quand même invité la comédienne. Je vous écris dans le noir au théâtre de la Reine Blanche. Voilà. Sylvie Van Kleuwen, qui va venir la semaine prochaine. Et pour l'autre pièce, La nostalgie des Blattes, de Pierre Note, à la Manufacture des Abbesses, ce sont les comédiennes Eulalie Delpierre et Marilyn Pape. Voilà. Et il y aura peut-être Anne Delalleux également.
Et voilà, et tout de suite, eh bien, c'est Bulle Noire sur l'antenne de Radio Libertaire.
bien qu'à début de mois, sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar. Sur Libertaire, Radio Libertaire,
de 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Libertaire,
t'as bien capté bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire,
on va parler de Paula, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby,
mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire, Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous et bien pour ouvrir cette nouvelle saison de Bulle Noire, rien de mieux que de commencer avec la maison d'édition Ici-Bas. Et pour en parler durant cette émission, nous avons en studio Marius Joigny. Bonjour Marius.
Bonjour.
Qui est journaliste. Vous comprendrez très vite au cours de cette émission l'objet de sa présence dans les studios de Radio Libertaire. Et nous avons au téléphone Paulin Dardel, qui est l'un des éditeurs justement d'Ici-Bas, et il va justement nous raconter comment cette maison d'édition s'est mise en branle, comment quels ont été les choix éditoriaux, etc., etc. Je voulais vous envoyer un petit message personnel. Le générique que vous entendez depuis maintenant une dizaine d'années, le chanteur du générique, Jean-François Rémy, nous a quittés en début de semaine. Et donc, cette émission lui est dédiée, tout simplement. Voilà, c'est une triste nouvelle qui m'affecte particulièrement. Mais on continuera à entendre sa douce voix tous les samedis sur Radio Libertaire. Alors, Paulin Dardel, tu m'entends ?
Oui, tout à fait, bonjour.
Bonjour Paulin. Alors, éditeur, alors j'ai lu, tu me dis si je dis des bêtises, j'ai vu que tu étais traducteur d'essais, tu as beaucoup traduit des biographies, des essais, dont une biographie graphique d'Hunter Thompson. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, c'est bon. Pas une légende.
Voilà, pour l'instant, je suis dans le vrai. Bon, parfait. Est-ce que tu peux raconter aux auditeurs de Radio Libertaire comment s'est montée cette maison d'édition Ici-Bas ? Quel en était le but ? Avec qui t'as fait cette affaire ? En quelle année vous avez commencé, etc., etc.
Ouais, alors il faut remonter il y a maintenant il y a plus de 10 ans, en fait. Je suis plus tout jeune. Alors moi, j'étais pas là au début.